si j'ai bien compris, derrière ce paravent, on peut retirer. Ouais. C'est vrai qu'il a fallu prévoir plus haut. Hein. C'est toujours une joie d'être parmi vous. C'est très épisodique, mais c'est pas grave. C'est toujours des bons moments, même si le temps n'est pas très propice en ce moment. Je n'oserais pas dire que c'est un temps breton, quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours une joie d'être là, parmi vous. Et je voudrais aussi vous présenter les salutations de l'église de Saint-Étienne. Voilà, qui est toujours... On est toujours, comment dire, présent dans le cœur, même si on est éloigné les uns les autres. Il y a toujours quelque chose qui reste. Et c'est vrai que ça fait... on était là en 78, donc on a quitté la Bretagne en 89. Et ça fait quand même... ça fait loin, mais en même temps, c'est... Le temps passe et en même temps, les choses sont toujours là. Les personnes sont toujours dans nos cœurs. Alors, je voulais vous poser une question, mais vous répondrez à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous, parfois, vous prenez des bonnes résolutions? Alors, c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, on prend souvent des bonnes résolutions et c'est toujours en début d'année. C'est étonnant, hein? Mais c'est vrai. Alors, en général, ça concerne les régimes. On se dit, ah, j'ai pris quelques kilos, à force que je les élimine, je vais faire un régime. Bon, ça peut être aussi la cigarette, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à arrêter de fumer. Alors, se dit, dès aujourd'hui, j'arrête de fumer. Ça peut être aussi de faire du sport. C'est-à-dire, oh, je me suis ramolli, je vais peut-être essayer de me tonifier un petit peu le corps, je vais refaire un peu de gym, etc. Alors, beaucoup de chrétiens aussi prennent des résolutions, comme lire plus souvent sa Bible, par exemple. Alors, on prend un plan de lecture sur un an, sur trois ans, ça dépend des programmes. Passer peut-être un peu plus de temps dans la prière aussi. S'investir un peu plus dans l'Église. Dans les relations avec les frères et sœurs, les appeler quand ils ne sont pas là, ou aller leur rendre visite, savoir comment ils vont, quel est le problème, pourquoi on ne les voit pas depuis un petit moment. Partager aussi l'Évangile avec nos proches. Alors ça peut être des voisins, ça peut être la famille. Et c'est vrai qu'avec la famille, parfois c'est plus compliqué des fois qu'avec une personne étrangère. Et puis quand on évoque les bonnes résolutions, en général, certains chrétiens se contentent de sourire, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils n'en prennent plus. D'autres cherchent aussi des occasions de renouveler leurs engagements et d'en prendre de nouveaux. Moi, le premier, il m'est arrivé aussi de prendre des bonnes résolutions qui, malheureusement, avec le temps, n'ont pas tenu. Prendre de bonnes résolutions, c'est toujours facile. Les mettre en pratique, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis que ça dure dans le temps, alors là, parfois, ça devient complètement impossible. Mais il m'a semblé qu'en échangeant avec pas mal de frères et sœurs dans l'Église en général, et peut-être aussi avec tout ce qu'on a entendu depuis un an et demi. Alors je ne sais pas ici, mais enfin à Saint-Étienne, par deux fois, les cultes, c'était par Zoom. Les réunions de prière, c'est toujours par Zoom pour le moment. On a eu deux périodes comme ça. Et c'est vrai que c'est tellement bien quand on peut... se faire la bise quand on se voit, se prendre dans les bras, serrer la main, se voir de près, Et puis par Zoom, c'est un peu plus compliqué. Ce qui nous a obligés, en fait, à prendre une autre dimension de la foi. C'est tellement facile d'aimer son prochain, c'est tellement facile d'avoir de l'amour et de la compassion pour son frère et sa sœur quand on les voit, alors que quand on est dans la distance, en raison des confinements qu'on a subis, on est obligé de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire de passer du stade de l'émotivité, je dirais, au stade spirituel. D'aborder un amour fraternel qui soit à un niveau supérieur. Alors, je pense que, après tous ces confinements, après toutes ces difficultés relationnelles que nous avons eues depuis 18 mois, je pense que les uns et les autres, on a envie de prendre de bonnes résolutions. Je suis certain que les uns et les autres, vous vous dites avec tout ce qu'on a vécu, on va redémarrer sur un autre plan, sur un autre niveau. Je pense que l'éloignement nous a obligés donc à atteindre ce niveau spirituel que nous n'avions pas, peut-être pas forcément, lorsqu'on se voyait de près et visuellement. Et ce que nous avons reçu à travers les prédications par Zoom, ce que nous avons reçu individuellement avec le Seigneur, parce qu'il fallait bien dépasser cet éloignement, créer un pont à travers Christ, à travers Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pour garder cet amour et cette relation. Tout ce que nous avons reçu, eh bien, il faut que nous, non seulement nous le gardions, mais que nous puissions le faire fructifier pour notre bien personnel, mais aussi pour le bien des autres, pour le bénéfice de l'Église. Alors bien sûr, pour garder ça, il y a une notion essentielle, c'est la grâce de Dieu. Il y aura toujours des chrétiens qui résisteront, bien sûr, non seulement à l'idée d'engagement en général, mais aussi à celui de bonne résolution en particulier, pensant qu'on peut vivre de la grâce de Dieu plutôt par ses propres efforts. Quelque part, il y a du vrai. Mais en réalité, avec Dieu, on ne s'engage pas malgré la présence de la grâce, on s'engage sur le fondement de la grâce. On prend de bonnes résolutions parce qu'il y a la grâce. Et finalement, je dirais que sans la grâce, il vaut mieux ne pas prendre de bonnes résolutions. Parce qu'elles auront du mal à tenir. Lorsque l'apôtre Paul a exhorté Timothée par cette parole, « Fortifie-toi », c'était un commandement. Mais un commandement tempéré, je dirais, par la profonde affection qu'il avait pour son disciple. Qui dit commandement dit forcément volonté pour l'appliquer. Et de quelle façon devait-il se fortifier ? C'est par la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce qui nous ramène à cette affirmation, nos bonnes résolutions doivent être fondées sur la grâce. Si nous pouvons nous engager pour Dieu, c'est parce que c'est lui qui s'est engagé pour nous en mourant sur la croix. Ce qui est en fait la démonstration suprême de l'engagement de Dieu pour toute l'humanité. Alors bien sûr, prendre de bonnes résolutions concerne d'abord notre propre personne. mais c'est toujours dans le sens de progresser dans la foi, dans notre façon de penser et aussi dans notre façon de considérer l'autre. Par contre, on ne peut pas prendre de bonnes résolutions à la place de quelqu'un d'autre. C'est tellement facile de dire « ben oui, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu sois comme ça, etc. » On est toujours de très bons conseils. En fait, c'est la mise en pratique de nos propres résolutions qui doit influencer l'autre. Donner envie à l'autre. Ce que nous avons reçu durant cet isolement, qu'il faut reconnaître, dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'il est inédit. Il doit non seulement être un engagement personnel, mais aussi un engagement qui doit être tourné vers les autres, portant par la même occasion, encore une fois, du fruit pour l'Église. Cet engagement ne doit pas être exclusivement tourné vers notre personne. Vous savez, il y a des personnes, des chrétiens, qui ne vont dans aucune église, parce qu'ils considèrent que lire la Bible et prier chez soi, c'est suffisant pour alimenter leur vie spirituelle. Et on sait, par expérience, que le lien social est absolument essentiel à l'épanouissement de notre être entier, physique et spirituel. Et entre autres, il fait grandir notre foi. C'est sur cette pensée qu'est fondée la communion fraternelle. Comme chacun le sait, bien sûr, l'Église n'est pas un lieu, ce n'est pas un monument, mais c'est chacun de nous, chacun des chrétiens qui la composent. C'est ça, l'Église. Le pasteur Billy Graham, alors c'est une personne que j'aurai toujours dans mon cœur et dans mes pensées, puisque c'est grâce à l'une de ses prédications que j'ai donné ma vie à Christ, a dit ceci: « Assurez-vous de votre engagement envers Jésus-Christ et cherchez à le suivre chaque jour. Ne vous laissez pas influencer par les fausses valeurs et les objectifs de ce monde, mais mettez le Christ et sa volonté en premier dans tout ce que vous faites. » Dans cette parole, il relève la notion d'obéissance à Dieu. Et puis aussi le fait de dire « ne vous laissez pas influencer par les fausses valeurs et les objectifs de ce monde », c'est vrai qu'on est dans une époque un peu compliquée. Un peu compliquée avec Instagram, Facebook, YouTube, Internet en général. Toutes ces influences qui nous arrivent et qu'on capte des fois sans s'en rendre compte et qu'on adopte sans s'en rendre compte non plus. Le Seigneur peut nous aider par sa grâce à éviter d'être des éponges, à absorber tout ce que le monde nous amène, nous envoie. Quand on voit ce qui se passe par Internet, toutes les menaces, toutes ces choses qui sont dites sur des personnes, c'est très grave. Et pourtant, on est là, on les regarde, on les lit, on les voit. Et inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais ça peut nous polluer. En parlant de Christ, Paul dit à peu près la même chose dans Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il dit « Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Alors vous allez dire « Oui, d'accord, mais c'est inaccessible. » Il était peut-être pleinement homme, mais il était aussi pleinement Dieu. Hein. Et nous, on n'est que pleinement homme, on n'est que humain. Vous savez, c'est pareil que pour une partie d'échecs. Si vous ne jouez qu'avec des gens qui sont moins forts que vous, ou qui sont de force équivalente, vous ne progresserez jamais. Il faut parfois être confronté avec des gens plus forts pour pouvoir justement progresser dans son jeu et s'améliorer. faut avoir des objectifs qui soient un petit peu plus élevés, parfois. Alors, on peut prendre un exemple, disons, plus simple peut-être, c'est de prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Oui. C'est garder quand même un niveau élevé, hein, en prenant l'exemple de l'apôtre Paul. Hein. Probablement plus accessible, bien sûr. Hein. C'est l'apôtre Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 9 et 10, « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » On voit ici la grâce de Dieu peut changer de manière radicale une personne. Je dis bien radicale. Au verset 9, l'apôtre rappelle qui il était, ce qu'il faisait avant sa conversion, et puis ce qu'il est devenu après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas. Et l'homme a complètement changé. Saul est devenu Paul. Vous savez, il aurait été pendant la Deuxième Guerre mondiale, il aurait fait partie de la Gestapo, hein. Ah bah oui. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'avant d'être chrétien, c'était quand même un homme dur. Il allait quand même, comme la Gestapo, aller dans les maisons chercher les chrétiens pour les emmener en prison. Peut-être même qu'ils étaient torturés pour avouer, donner des noms d'autres chrétiens. Puis ça a terminé aussi par la mort. Hein. L'exemple d'Étienne en est un. Il y en a peut-être eu d'autres. Le Nouveau Testament ne nous dit pas tout. Alors, dans ce passage, il y a quelques mots intéressants. Le premier mot, c'est le mot « digne » dans la phrase « je ne suis pas digne » qui traduit un terme grec qui est « ikanos ». Alors, « ikanos », en fait, ça signifie « capable ». Non pas dans le sens de « capacité » d'être apôtre, avec toute la charge lourde de toutes les responsabilités que ça peut représenter. Non, c'est dans le sens de capacité morale, devenant synonyme d'un autre terme grec qui est axios, qui lui signifie capable, digne, pardon. D'où le côté indigne de la fonction qu'il avait lorsqu'il persécutait les chrétiens avant de devenir l'apôtre majeur que nous connaissons. Apôtre majeur appelé par Dieu. Rappelons-nous que ce que Paul a dit de lui-même, 1 Timothée 1,13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » En trois mots, il résume en fait ce qu'il expliquait à Agrippa dans les Actes au chapitre 26, ce qui signifie en ce qui nous concerne, que si nos nouvelles habitudes et nos nouvelles résolutions sont basées sur la grâce, alors tout est possible. Tout est possible. Le deuxième mot aussi qui est intéressant, c'est le mot « vaine » dans la phrase « sa grâce envers moi n'a pas été vaine ». C'est un mot qui traduit le terme grec « kéné » qui signifie « vide ». Ça s'applique à la puissance de propre de la grâce de Dieu qui s'est déployée et a pris forme en lui. Et il faut bien reconnaître que tout ce que Dieu fait n'est jamais vide de sens. Le troisième mot, c'est le mot « travailler ». Dans la phrase « j'ai travaillé plus que tous ». un mot qui traduit le terme grec « ekopiasa », qui désigne non seulement le travail proprement dit, les efforts, les labeurs, les souffrances, les voyages, les prières, mais aussi les fruits reçus et qui ont découlé de ce travail. Il est vrai que Paul peut affirmer « j'ai travaillé plus que tous » et ça sans pour autant se vanter de sa spiritualité et de sa puissance, mais de celle de Dieu. Puisqu'il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En introduction du verset 9, à l'explication de ce que Paul était avant et de ce qu'il est devenu après, il dévoile le moyen que Dieu a utilisé, la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il va répéter 3 fois dans ces 2 versets le terme grâce, la grâce de Dieu. Je crois que le souvenir que Paul avait d'avoir persécuté l'Église de Dieu a été la motivation de prouver que la grâce de Dieu envers lui n'a pas été vaine. Si nous-mêmes avons été non pas des personnes violentes, comme l'a été Paul, bien sûr, mais peut-être spirituellement un peu endormis, ou en retrait des activités de l'Église, par exemple, la grâce de Dieu nous donnera la force d'aller au bout de nos bonnes résolutions. Avant ce confinement, nous avions des défauts, des manques, mais aussi des valeurs, des qualités. Et après cette expérience inédite, aurons-nous changé? Aurons-nous grandi avec de nouvelles résolutions? Afin que nous puissions dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et ce temps de remise en question n'aura pas été vain. Tout comme la grâce a été responsable de l'appel de Paul, elle a aussi été responsable de sa fidélité. Maintenant, les activités commencent à revenir petit à petit. On commence à lâcher un peu la bride. Chacun peut retourner maintenant de plus en plus à son travail. Alors, il y en a qui resteront peut-être encore par Zoom chez eux. En tout cas, les choses commencent à respirer. Il est bien possible que nos assemblées, comme celle de Saint-Étienne et comme ici, eh bien, qu'il y ait des bouleversements dans les mois qui viennent, mais j'ai cru entendre qu'il y avait déjà des bouleversements qui avaient commencé. Il commence à se passer des choses ici. Jean-Marc et Francine nous ont expliqué que l'Église grandit, qu'il y a des nouvelles personnes. Merci Seigneur. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu est puissante. Alors, quels seront les bouleversements ? Dieu se le sait, bien entendu, en tout cas pour le moment. Par contre, on peut supposer qu'il va nous éclairer les uns et les autres pour que ces bouleversements nous concernent et nous concernent aussi tous ceux qui nous entourent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.